on n'a pas célébré la résurrection de quelqu'un qui est mort à nouveau, mais on a célébré la résurrection de Jésus-Christ. Et au travers de cette résurrection de Jésus-Christ, on a voulu aussi célébrer la résurrection de notre foi. Vous vous rappelez de ça ? Et moi, je trouve toujours intéressant, après un gros événement, une grande victoire, une grande célébration, il y a toujours l'effet inverse la semaine d'après. C'est, ouais, pareil que c'était la semaine dernière. Alors, c'est, voilà, on vient en nombre, on est là, on célèbre, on est là. Et tout retombe. Et la vie ordinaire a repris son jusqu'à l'année prochaine. C'est pas notre cas ? L'équipe, votre équipe gagne. C'est pareil, hein, on sort du stade, hein, mais il y a le travail qui reprend. Et à la fin de mon message la semaine dernière, j'avais posé cette question. J'avais dit, que ferez-vous donc du Christ ressuscité ? Que ferez-vous donc ? Est-ce que vraiment votre foi est vraiment ressuscité ? Ça ne veut pas dire qu'elle était morte, parce qu'on ne peut pas avoir une foi morte. Mais une foi en sommeil, une foi accablée par les événements, accablée par la nature de notre vie, accablée par les circonstances. J'aimerais que vous tourniez les pages dans la première épître aux Corinthiens. Au chapitre 15. Et je nous invite dans les 15 premiers versets. 14 premiers versets. Un Corinthiens dans le Nouveau Testament. Chapitre 15. Et les 14 premiers versets. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, dit Paul, avant tout, ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre moi-même, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez cru. Si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi vaine. Ce qui me préoccupe, c'est de garder réveillé notre passion. C'est de garder réveillé ces instants, ces éléments, quand justement nous prenons conscience que notre foi a besoin de rester allumée et pas éteinte. L'apôtre Paul affirme que Christ est ressuscité selon les Écritures, c'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. Cette affirmation m'interpelle sur l'importance de cette parole. La parole de Dieu annonce la naissance, la mission, le rejet, l'arrestation, le jugement, la condamnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on a vu la semaine dernière dans Luc 24, les disciples en doutaient. La les disciples se posaient la question, mais vraiment, est-ce que il était celui qu'il a dit être? Pour plaire à Dieu, nous devons nous conformer chaque jour à sa parole. Et cela dans tous les secteurs de notre vie. La parole de Dieu, c'est la lumière qui nous conduit. Psaume 119, 105. Elle est aussi notre nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pour notre croissance, Dieu nous parle par le biais de sa parole. Lorsqu'un enfant de Dieu ouvre la Bible, Dieu lui parle. Lorsqu'il ne veut pas ouvrir la Bible, il ferme automatiquement la parole de Dieu. Il dit à Dieu aujourd'hui, je ne veux pas te parler. La mort, la résurrection de Jésus constitue le message de l'évangile. Vous savez, quand on veut partager l'évangile, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et on a plein de méthodes. On a appris Romains 3, 23, Romains 6, 23. Et puis, on a un peu de mal à s'y retrouver, n'est-ce pas? Et puis, on commence par raconter ma vie, notre vie, en disant, moi, tu sais, je suis né catholique, je suis né évangélique, je suis né bouddhiste, je suis né brigand. Je suis né, voilà, et Dieu a fait des choses dans ma vie, et j'aimerais te les faire connaître. Et on a du mal à dire, là, la personne, elle nous regarde, mais c'est quoi l'évangile? Pas vrai? Mais écoute, viens à l'église, le pasteur, il va t'expliquer. Mais dans 1 Corinthiens 15, l'évangile y est. Jésus est venu du ciel sur la terre, avec une mission. De payer le prix de nos péchés. Il a été arrêté, il a été condamné, il est mort et il est ressuscité et il va venir nous chercher. Voilà l'évangile. Et c'est ce que Paul dit. La mort et la résurrection, c'est la base de l'évangile. C'est le pilier sur lequel nous avons basé notre foi. L'apôtre Paul le formule en ces termes, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Voici la bonne nouvelle du salut. Waouh ! Et finalement, voilà ce jour de Pâques, on célèbre la résurrection de Christ. Et après, tout devient gris. On parle de ce jour magnifique. Et une semaine après, le train-train de la vie. Et aujourd'hui, on a la chance, le beau temps est là. Mais qu'en serait-il ce matin si voilà, il faisait très gris? Est-ce qu'on aurait prié, Seigneur, merci pour ce mauvais temps ce matin? Merci parce qu'il fait tellement froid qu'on a dû rallumer le chauffage, Seigneur. Merci. Cet argent qu'on dépense dans le chauffage, on te l'aurait donné. Enfin, ça, c'est électoraliste. L'Église. Le jour de Pâques. Il y a une semaine, a confessé sa foi en Jésus-Christ. Et finalement a dit, c'est bien vrai ce qu'il nous disait. Vous vous rappelez les disciples d'Emmaüs? Ah ben oui! Ah ben oui, c'est bien ce qu'il nous disait. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le proclamer? Est-ce que ma foi est vraiment comme ce jour de Pâques? Et sinon, quoi? Pourquoi? Nous avons eu 4 points la semaine dernière. On a vu premièrement que la réalité de la résurrection du Christ confirme ses propres déclarations, à savoir qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. On a vu deuxièmement que la réalité de la résurrection de Dieu de Jésus, pardon, nous assure que Dieu était parfaitement satisfait, que c'est bien ce que Dieu voulait. On a vu troisièmement que la réalité de la résurrection de Christ nous assure de sa victoire sur la mort. Et nous avons vu quatrièmement que la réalité de la résurrection de Christ nous rappelle qu'il viendra à nouveau corporellement pour juger les vivants et les morts. Voilà le message de Pâques. Voilà le message principal de ce qui fait notre foi. Bien sûr, la parole de Dieu explique plein d'autres choses. Mais c'est le sens, c'est le cœur. C'est le cœur du message. Nous avons vu le jour de Pâques que la résurrection témoigne que Dieu est tout-puissant, El Shaddai, tout-puissant. Qu'elle est envers nous qui croyons l'infiniment grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On a étudié récemment, dans Éphésiens chapitre 3, les quatre mesures de l'amour de Dieu. Vous avez déjà essayé de mesurer l'amour de Dieu ? Ça y est, le pâté, là. Ça prend du temps de mesurer, hein ? La largeur de l'amour de Dieu. Le monde. Dieu attend... aimer le monde. La largeur de l'amour de Dieu, c'est que Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas ciblé un petit groupe, même les Juifs. Mais Dieu a ouvert au monde. Sur sa longueur, Dieu nous a prédestinés dans le passé en nous assurant notre avenir. La longueur. Derrière, devant. La profondeur, il est venu jusqu'à mourir pour moi. La hauteur, il est remonté au ciel et il m'y assure une place. Et Éphésiens dit que déjà je suis assis avec lui dans le ciel. Vous avez déjà mesuré son amour ? Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Christ, c'est ça l'amour de Christ. Et on a du mal parce qu'on dit « Oh, mais Dieu, il n'est pas notre image, il n'est pas notre largeur. » Mais quand je vois cette distance-là, je me dis « C'est sûr. Moi, je ne peux pas aimer le monde comme Dieu a aimé le monde. Je ne peux pas revenir sur le passé, je ne peux pas aller dans l'avenir, mais je suis sûr d'une réalité présente, c'est que Dieu, je l'aime. Mais avant que je puisse aimer, il m'aime. » Et c'est ça la puissance de Pâques. C'est ça cette puissance qui devrait être notre générateur. Dieu est intervenu en faisant passer Christ de la mort à la vie, on l'a dit la semaine dernière. Mais j'aimerais ce matin, dans les minutes qui me restent, désolé du rappel, nous montrer comment nous pouvons rendre notre foi inébranlable. C'est-à-dire une foi qui ne peut pas bouger. La résurrection de Christ témoigne, confirme que Dieu est fidèle. Est-ce que vous le croyez ? Que Dieu est fidèle. On en doute des fois, hein ? Non ? Allez, on est entre nous, comme dit Pierre. Soyons honnêtes. Oh, bon, ça sert à quoi de prier ? De toute façon, ça ne change rien. Puis Dieu, il fait ce qu'il veut, alors de toute façon. Dieu est fidèle. Notre Dieu s'appelle fidèle. Car il honore sa parole et tient ses engagements. L'apôtre Paul nous enseigne que Christ est venu dans le monde pour accomplir le plan éternel de Dieu. L'Éternel avait annoncé ce plan longtemps à l'avance au peuple d'Israël. Voilà pourquoi Paul est émerveillé quand il dit sans cesse « Christ est mort, Christ a été arrêté, Christ a été enterré selon les Écritures, selon ce que Dieu avait défini à l'avance. Genèse chapitre 3, verset 15, ce proto-évangile annonce déjà la victoire de Christ. Hein, et ta postérité t'écrasera, écrasera le diable. Et la postérité de Ève, dans Genèse 3, 15, c'est Jésus-Christ, qui a eu la victoire sur Jésus, sur le diable à la croix. Mais il ne l'a pas eu qu'à la croix. Il a eu le jour de la résurrection. Parce qu'à la croix, il est mort. Et là, le diable, il se disait, j'ai gagné, il est mort. Mais le dimanche, il a rangé les ballons. C'est un peu imagé ce que je dis, hein. Mais c'est comme ça. Il a fait la fête pendant trois soirées, enfin deux soirées. Mais le troisième jour, ceux qui le suivaient, qui étaient venus à la fête, qui avaient arrosé un petit peu la soirée, ils se sont dit, on s'est fait bien rouler. Mais depuis, ils ont un petit peu de mal à revenir de l'autre côté. Désolé, c'est un peu humoristique. Je vous ai transmis. Avant tout, ce que j'avais reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est mort. Le mot fidèle, sa racine dans l'Ancien Testament, veut dire étayer, soutenir, entretenir. Appliqué à une personne, le mot fidèle implique le fait que cette personne est digne qu'on s'appuie dessus. Digne qu'on ait confiance. Vous savez, ça arrive souvent quand les parents, ils ont des enfants. Vous savez, l'enfant, il monte sur un petit monticule parce que voilà, il est courageux, il monte. Et puis d'un seul coup, enfin, je redescends. Et là, c'est papa. Et puis là, il saute dans les bras du papa. Mais l'enfant, il réfléchit pas. Il ne se dit pas, est-ce que papa est capable de recevoir ? Il ne se dit pas, est-ce que papa ne va pas s'en aller au dernier moment ? Il a confiance parce qu'il peut s'appuyer sur son père. Ben, Dieu fidèle, il faut imaginer ça. C'est quelqu'un sur qui on est sûr que nous pouvons nous appuyer. Quelqu'un qui ne fait jamais défaut. Quelqu'un qui ne manque pas à ce qu'il est, pas simplement à ce qu'il fait. Dans le Nouveau Testament, le mot grec, lui, il dit « digne de confiance ». Digne de confiance. Et aussi, il rentre la notion de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, je ne vais pas lire pour gagner un peu de temps. Verset 24, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, 1 Jean, chapitre 1, verset 8, nous rappelle que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ça paraît un petit peu bête de le rappeler, non ? Vous dites, pasteur, tu nous rappelles toujours les mêmes choses. Mais c'est toujours les mêmes choses qui nous manquent. C'est à chaque fois la même chose. Quand on est dans une période de doute, on doute de quoi ? Mais on doute que Dieu soit fidèle. Non ? Alors, c'est intéressant que la Bible nous rappelle plusieurs fois et sans arrêt, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et ça paraît un peu bête que votre pasteur vous le répète, mais parce que la parole de Dieu le dit. Et parce que nous avons besoin. C'est-à-dire, avec mon épouse, on s'est engagé à aider des gens. On leur a dit, voilà, si vous avez besoin de nous, contactez-nous, téléphonez-nous. Et ce qui est intéressant, de temps en temps, ils posent la question, êtes-vous toujours d'accord de nous aider ? Et à chaque fois qu'ils m'écrivent, je leur réponds en disant, pourquoi vous avez un doute ? Et des fois, on se tourne vers Dieu en disant, Dieu, t'es toujours d'accord ? Nous aider. Et Dieu, il nous dit, mais qui c'est qui t'a pu te faire penser que je voulais plus. Ah bah, tu sais, j'ai pas été terrible ces derniers temps là. T'as vu ta parole, j'ai pas eu trop le temps de la lire. On s'est pas trop vu cette semaine d'ailleurs, on n'a pas trop parlé. Mais est-ce que c'est Dieu qui est parti? Non. Dieu n'est pas parti, il est toujours là. Il a dit qu'il avait fait son habitation en moi. Il n'a pas quitté la maison, il n'a pas pris son baluchon. Et Dieu me rappelle, mais moi je suis fidèle. Même si toi tu es infidèle, je suis fidèle. La manifestation de la fidélité. J'aimerais la voir sous quatre domaines. La fidélité de Dieu se manifeste par l'accomplissement de son promesse, de sa promesse et son alliance. Dieu garde la parole qui sort de sa bouche. Dieu garde la parole qui sort de sa bouche. C'est important, mes amis. Les disciples d'Emmaüs et les disciples, en général, ont été touchés que finalement, ce que Dieu avait dit, il l'avait fait. Et finalement, leur foi, cette foi qu'ils avaient eue, cette confiance qu'ils avaient eue dans un homme, Jésus, ils se sont aperçus qu'elle n'avait pas été mal placée. Et grâce à cette foi ressuscitée, nous sommes là aujourd'hui. Imaginez qu'ils ne soient pas allés là, qu'ils n'aient pas cru, que leur foi n'ait pas été ressuscitée, tout se serait arrêté le vendredi où Jésus a été crucifié. Dans le psaume chapitre 9, si vous voulez tourner les pages de l'écriture, le psaume 9, versets 21 à 27. Psaume 9, c'est facile à trouver. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité, ma bienveillance seront avec lui. Sa force s'élèvera par mon nom. Je soumettrai sa main de fer et les fleuves à sa main, la mer et les fleuves à sa droite. Lui m'invoquera en disant : tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. C'est le psaume 9. Vous n'avez pas ça ? Me serais-je trompé en copiant ma référence ? Je vous vois tous étonnés. Oui, c'est pas la bonne référence. Alors, il va falloir que je recherche la bonne référence. J'ai trouvé David. On fait une pause casse-croûte, comme on dit. Hop, hop. Excusez-moi. Faites bien de me signaler que ce n'est pas la bonne référence. Je vais essayer de vous le trouver. J'ai oublié de copier le 8. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Psaume 89. Je vais vérifier directement dans mon texte. Voilà. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. C'est ça. Psaume 89, verset 21. Lui, il m'invoquera, il dira : tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Merci d'avoir osé me. Voilà. Dieu accomplit ce qu'il promet. La fidélité de Dieu se manifeste dans la défense et la délivrance de ses serviteurs au jour de l'épreuve. Romains chapitre Romains Lamentations 3 22 23 nous dit la fidélité de Dieu n'est pas épuisée. D'autres versions ont marqué à son terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Vous imaginez à chaque fois que vous ouvrez les yeux le matin, vous dites le Seigneur a rechargé la batterie. Et il n'en a pas fini. Et c'est pour ça que j'ai ce message aujourd'hui. C'est que finalement, on célèbre ce grand événement qui est Pâques. Et tout de suite après Pâques, et on oublie que l'événement d'il y a une semaine, c'est en fait ce qui alimente toute ma vie chrétienne. C'est ce qui alimente, c'est ce qui énergise toute ma vie. Et que si je ne garde pas cette chose allumée, je vais vite faire fausse route. Je vais vite me mettre de côté. La fidélité de Dieu n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité. La fidélité de Dieu, troisièmement, se manifeste dans le fait qu'il se tient près de nous. Et le Nouveau Testament dit qu'il se tient en nous. Il le sauve même quand nous sommes infidèles. Dans la deuxième épître à Timothée, Nouveau Testament, deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. De Timothée. Si je cherche dans 1 Timothée, je vais avoir du mal. Si nous sommes, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors ça, mes amis, attention, c'est un verset savonnette. Parce qu'avec ce verset savonnette, on dit donc moi, je peux être infidèle. Dieu, lui, continuera d'être fidèle. Oh, Romains 6, 6 dit « Est-ce que je demeurerai dans le péché pour que la grâce abonde ?» Loin de là. Loin de là. Dieu attend de nous que nous soyons fidèles. Mais même si nous tombons, Dieu, lui, reste fidèle. Mais ce n'est pas une incitation à tomber, mes amis. C'est un pouce au crime. Donc ne partez pas en disant « Pasteur, ce matin, il nous a rassurés. On a le droit d'être infidèle. » Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et même, j'ajouterai un petit verset qui dit hein, « Si vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. » Ouh. Ça veut dire, si j'ai une foi tiède, hein, c'est « Ben, j'y crois pas. Hein. » C'est un peu normand, ça. Moitié dedans, moitié dehors. La fidélité de Dieu, lui, demeure fidèle. Ah, oh, mes amis, la fidélité de Dieu, quatrièmement, se manifeste en ce qu'il ne permet pas que ses enfants souffrent ou soient tentés au-delà de leur force. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de ses enfants souffrent dans le monde, n'est-ce pas ? Sont torturés et j'en passe, hein, je ne vais pas faire la pléiade, malheureusement, de tout ce qui arrive. Et on a du mal à réconcilier le texte que Dieu dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Mais alors que ses amis passent au travers de toutes ces choses, une chose qui est certaine, rappelez-vous Étienne qui était lapidé, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, il n'a pas dit pardonnez, il a dit qu'il a vu le Seigneur là. Et il savait qu'au travers de cette grosse chose qui lui arrivait, Dieu était avec lui. Et ce qui se passe, c'est que quand nous passons au travers de ces grosses épreuves, alors il y a quelqu'un qui ne nous lâche jamais la main. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Pour nous, ça paraît peut-être pas très juste. Parce que ce qu'on attend, c'est qu'on ne souffre pas. Ce qu'on attend, c'est qu'on n'ait pas d'attaque. Ce qu'on attend, c'est qu'on soit délivré, qu'on soit tous guéris. que le cancer ne tue plus personne. Il va continuer à tuer. Et Dieu va rester quand même toujours fidèle. Il y aura toujours des accidents de voiture. Il y aura toujours des guerres. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais l'assurance que nous avons, c'est que quand nous passons au travers de ces choses, quand même un bien-aimé nous quitte. L'assurance, c'est que le jour où il nous quitte, il va auprès de son Seigneur. Et que son Seigneur est lui jusqu'aux derniers instants. Le Seigneur est fidèle. Il vous fortifiera et vous gardera. Le Seigneur est fidèle. On peut avoir confiance en lui. Chaque enfant de Dieu doit s'appuyer sur la fidélité de Dieu, en affirmant que le Seigneur est digne de confiance. Malgré le temps qui passe, la pression dans notre vie, l'humiliation, le désert, parfois, dans lequel peut-être nous nous sommes engagés, ou peut-être nous nous sommes retrouvés, sachons et gardons à l'esprit que notre Dieu est digne de confiance. Qu'il ne renie pas sa parole, qu'il accomplit sa parole jusque dans les derniers mots. Il a annoncé la venue de Jésus dans le monde et il a tenu parole. Quand le Seigneur dit qu'il reviendra sur terre, la Bible dit qu'il sera fidèle et qu'il le fera. En acceptant d'aller jusqu'à la mort, Jésus avait confiance que son Père accomplirait cette promesse. Dans le psaume 16, il est dit qu'il ne l'abandonnerait pas dans le séjour des morts, qu'il le ramènerait à la vie. La résurrection l'a fait. La preuve de la victoire de Jésus sur la mort est l'assurance que nous aussi nous ressusciterons. Et c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens. Cette grâce d'avoir un Dieu fidèle, un Dieu qui a ressuscité son Fils, qui ne l'a pas laissé enfermé par les liens de la mort, c'est ça qui doit ressusciter notre foi. Dans l'expression de la résurrection de Christ, c'est notre résurrection. Vous rappelez Marthe et Marie qui pleuraient parce que leur frère était mort. Est-ce que Jésus est arrivé en disant « Arrêtez de pleurer, je vais ressusciter. » Non, il n'a pas fait ça, il a commencé à dire à Marie « Mais c'était bien que je ne sois pas là. » Parce que tu dois voir la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu crois que je vais ressusciter ton fils ? Oui, ton frère, oui, le dernier jour. Et il demande à Marie « Mais tu crois vraiment cela, toi ?» Oui. Mais des fois, le oui, il ne vient pas tout de suite. Hein. Tu crois ça, toi ? Oui. Mes amis, nous avons besoin de garder cette confiance, cette assurance. Ce qui s'est passé la semaine dernière doit rester imprimé dans notre vie 365 jours par an. Et 366, c'est années bisextiles. Pour que la manifestation de Jésus-Christ, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur la violence, sur la méchanceté, sur la maladie et sur toute autre chose, soit affirmée par ceux qui croient en la résurrection de Jésus-Christ, qui croient qu'un jour, ils seront au ciel avec lui, parce que Jésus leur prépare une place et qu'il viendra bientôt les chercher. Cette grâce a été manifesté. Christ nous donne la victoire parce que Dieu est fidèle. Victoire sur la mort, lumière sur les ténèbres, espoir sur le désespoir, amour sur la haine, joie sur la tristesse, paix sur la guerre, succès sur l'échec. Vous imaginez ça ? La résurrection de Jésus, je le répète, nous donne par lui la victoire sur la mort, la lumière sur les ténèbres, l'espoir alors que nous sommes désespérés. L'amour, alors qu'il y a de la haine. La joie, alors que nous sommes tristes. La paix, alors que nous sommes en temps de guerre. Le succès, même quand nous sommes dans l'échec. La santé. Je serai pour toi la santé de tes os. Dieu est celui qui nous donne la force, qui nous donne le vouloir et le faire, qui nous donne les compétences, qui nous donne des dons. Un don, c'est un cadeau immérité. C'est pas quelque chose que nous méritons. Conclusion. La résurrection, c'est le témoignage de la fidélité de Dieu, de la victoire de Christ. Lorsque nous fêtons la résurrection, nous confessons notre foi au Dieu fidèle et tout-puissant. La toute-puissance de Dieu qui agit dans la résurrection d'entre les morts agit encore aujourd'hui. Mais ma question, si j'ai posé la question la semaine dernière, qu'est-ce que vous allez faire du Christ ressuscité ? Ma question aujourd'hui, est-ce que cette foi est la même chaque jour de l'année et pas juste le jour de Pâques ? Est-ce que si Dieu a vraiment touché nos cœurs à raviver cette foi, allons-nous la laisser s'éteindre en attendant de la rallumer un autre jour ? Que Dieu nous encourage. Ce matin, mon intention, c'était de nous encourager, de nous garder en forme. Vous savez, après les grandes victoires, il y a ce qu'on appelle les grandes défaites. Et souvent, quand on a célébré quelque chose, célébré un mariage, célébré une grande victoire, un examen, souvent dans les jours qui suivent, on va voir la personne et on lui dit « Alors comment ça va ?»« Ça va. Ça va. Pas plus ? Bah, tu sais, maintenant la vie a repris. » Ah oui ? Donc on a fait toute cette fête pour ça. Et moi, je ne voudrais pas que la résurrection de Jésus-Christ qu'on est venu fêter ensemble, ça soit juste pour ça. Mais qu'elle ait une répercussion dans notre vie. Pour que le monde sache que Dieu est fidèle et que Dieu les aime. Amen. Je vous invite à prier.